revient l'honneur de vous présenter notre hôte de ce mois-ci, qui fera quatre conférences, M. Maurizio Frattini, qui est professeur à l'Université de Sienne, un beau endroit, le droit au monde, professé, et qui est un très savant spécialiste de la littérature gréco-latine dans une perspective plutôt anthropologique. J'ai regardé ce qu'il y avait de lui à la Bibliothèque nationale et j'ai découvert, alors que je l'ai découvert moi à travers un livre que j'ai trouvé merveilleux et qui m'a donné envie de le connaître et qui m'a permis d'ailleurs de le connaître, qui s'appelle Portrait de la main, sujet extraordinairement tentant déjà par le titre, mais qu'il est encore plus par les analyses extrêmement fines, à la fois anthropologiques, mais aussi littéraires, qui en sont le fil conducteur. Mais je connais aussi son livre sur le mythe de Narcisse, qui est le meilleur sur le sujet, le mythe de Narcisse, qui a été si merveilleusement raconté par Ovid, mais qui est très présent dans la littérature latine ultérieure. Mais en regardant de plus près, et récemment il m'a envoyé un livre toujours d'une grande originalité dès le titre sur la voix dans l'Antiquité, mais je répète, en regardant la bibliographie telle qu'elle est présente au moins à la Bibliothèque nationale, nous comptons plus de 22 titres et encore d'ouvrages. Je ne pourrais pas citer les innombrables contributions sous forme de conférences, sous forme d'articles, sous forme de communications. Et dans ces 22 titres, je me suis dit qu'il m'en manquait quand même un ou deux, et même davantage, dans ma propre bibliothèque. Il y a par exemple un livre sur le sextant du temps des témoignages, il y a des notes et des études sur Ennius, et il y a toute une série d'études d'anthropologie romaine sur la parenté, sur le temps, sur la notion d'âme, sur toutes sortes d'autres sujets. Et il y a même un titre qui m'a intrigué parce qu'il rejoint une expression qui est très, très répandue dans la littérature mystique du XVIe et surtout du XVIIe siècle, in fondo al cuore, in fondo al cuore, le fond du cœur. Bon, alors vous voyez qu'avec tous ces préparatifs, nous arrivons à un moment où le professeur Maurizio Frattini a un miel extraordinairement riche à nous offrir et il a choisi de traiter un sujet qu'il n'avait jamais traité mais qui je crois est le sujet de son prochain livre, mais comme il en publie un tous les deux ans, cette publication serait tardée. C'est le thème du double dans la littérature classique, dans la littérature gréco-latine, et ce double que les Égyptiens appelaient Ka, mais que les Romains et les Grecs connaissaient aussi, mais sous des formes beaucoup plus variées. Donc je ne vais pas vous retenir davantage, je voulais simplement vous donner à peu près dans quel... Si vous voulez, c'est un savant d'un type relativement neuf dans les études gréco-latines, mais qui doit beaucoup à la France, parce que il est, en tant qu'anthropologue, il a une dette, évidemment, il a contracté une dette, je crois qu'il ne s'en cache pas, envers notre collègue qui a enseigné ici pendant si longtemps, Jean-Pierre Vernant, et envers l'école anthropologique que Vernant a créée et qui a essaimé à travers le monde, et en particulier en Italie. Et donc, je vous laisse, cher ami, la parole.
Merci. Avant de commencer, permettez-moi de remercier le collège pour cette invitation. Et monsieur le professeur Carlo Ossola et Michel Zinc, c'est Cette invitation m'a donné beaucoup d'honneur et de plaisir parce que j'aime la France, j'aime Paris, comme Marc Fumiloli venait de dire. Et je vais remercier aussi Marc Fumiloli qui a lu avec plaisir un de mes livres. Ça, c'est beaucoup pour un écrivain. Donc, alors, ces conférences portent sur le thème du double dans l'Antiquité classique. Et comme tout, je commencerai avec, comme toujours, un classiciste décent, je commencerai avec Homère. Donc, vous savez que l'Iliade et l'Odyssée sont peut-être les textes les plus marquants de la littérature occidentale, en ce que leur présence a profondément influencé la tradition culturelle qui a suivi. À l'instar des grandes statues qui, au lever du soleil, indiquent leur ombre les jours qui avancent, il est revenu au poème homérique d'avoir pu devancer dans une large mesure la littérature des siècles suivants. Pour cette raison, l'Iliade et l'Odyssée constituent non seulement un texte qui doit être lu et compris d'une manière, disons, synchronique, mais aussi une source intarissable de reconnaissance. Peut-être faudrait-il parler d'agnition, comme sur la scène de la comédie attique ou romaine, quand un personnage est reconnu comme le fils de quelqu'un d'autre et que l'agnition permet enfin de reconnaître la paternité d'un garçon ou d'un jeune fille. Tiens donc, nous arrive-t-il de dire en lisant le poème, ça était déjà dans Homère. Ça aussi, c'est le fils d'Homère. Pour nous, les poèmes constituent aussi un lieu de lecture à rebours, en quelque sorte, une lecture qui remonte des copies aux originaux de l'empreinte sur la cire au sceau. Naturellement, cela ne signifie pas que l'Iliade et l'Odyssée représentent un commencement absolu, un pilier dressé entre la nature et la culture, entre le silence et la voix. Maintenant, nous savons parfaitement qu'Homère, le nom que par convention nous donnons au poète inconnu de la tradition épique grecque, doit lui aussi beaucoup à ceux qui l'ont précédé en Grèce et dans les bassins méditerranéens. Si ce n'est que nous ne sommes pas en mesure d'en savoir beaucoup plus. Si les archives de l'écriture avaient conservé plus trace, le jet des agnitions pourrait remonter encore plus loin, avec tout un enchaînement de paternité ou d'ancestralité dans laquelle Homère devrait se résigner à tenir à son tour le rôle d'un fils. Mais la trame des événements, qui tient une place déterminante dans l'histoire de la culture, a voulu concéder au poème les privilèges presque exclusifs de la paternité. Et certes, on ne compte plus les fils que ces poèmes engendrèrent. Ainsi, pour commencer ce cycle de conférences, nous devrons dire au préalable que le sujet que nous avons choisi, c'est-à-dire le double, est lui aussi un fils d'Homère, d'une certaine manière. Car c'est dans l'Iliade que nous rencontrons pour la première fois ce thème, le double, j'ai l'autre, un thème qui aura tant de succès, comme vous le savez, dans la culture et dans la littérature occidentale. Toutefois, avant de nous mesurer au texte de l'Iliade, il convient de voir brièvement les deux moyens, ou plutôt les deux types, autour desquels le thème du double s'est articulé dans la littérature classique. Le premier type se rapporte à tous les récits mythologiques dans lesquels quelqu'un, presque toujours une divinité, crée le double d'une créature humaine pour la protéger d'une agression. Beaucoup d'entre vous se rappellent sans doute l'invention du poète Stésichore, reprise par Euripide, qui narre comment Hélène de Sparte n'aurait jamais été enlevée par Paris et n'aurait donc jamais suivi son fâcheux amant à Troie. Qu'était-il arrivé? Pour mettre l'épouse de Ménélas à l'abri de la séduction, la déesse Héra avait créé un eidolon, un double animé d'Hélène. C'est lui, et non pas la vraie Hélène, qui avait suivi Paris à Troie, causant ainsi la guerre la plus sanglante qui soit. Ici, il s'agit des doubles de défense, comme nous les avons appelés à une autre occasion. Des doubles qui servent à protéger quelqu'un d'une agression en déplaçant les visées du mal intentionné sur un fantôme inconsistant. Le deuxième type de double, par contre, se rapporte au récit où une personne, en général, une divinité, dans les mondes classiques, usurpe l'identité de quelqu'un d'autre. Cette fois, le double ne consiste plus en un fantôme, en un idolant, tout animé qu'il soit, mais en quelqu'un qui a le pouvoir de prendre les traits d'un être humain. Ce récit débouche souvent sur une confrontation dramatique entre moi et l'autre, entre moi et l'autre moi, sur une situation à la fois paradoxale et troublante qui prive le moi de son identité et le plonge dans un profond désarroi. Dans la littérature de l'Antiquité, l'exemple le plus célèbre, le plus achevé d'une telle situation nous est donné par l'amphitryon de Plaute, où l'esclave Sosie est dépossédé de son identité par le dieu Mercure qui a pris ses traits. Au fil du temps et de la littérature, de nombreuses histoires répéteront ces schémas en Grèce, à Rome et au long de la tradition littéraire. Au Moyen-Âge, de telles intrigues nous confrontent non plus à un double de défense, comme dans le cas de l'idolon d'Hélène, mais à un double d'attaque à proprement parler. Les dédoublements ne visent plus à défendre l'être original, mais bien à l'agresser. Comment se situent les poèmes d'Homère par rapport à cette typologie de double? Nous pourrions résumer les choses de la façon suivante. Il faut incontestablement attribuer à Homère la paternité du premier type de double, c'est de défense, alors qu'il ignore tout du second type, c'est d'attaque. Comme nous le verrons, Homère recourt souvent au thème du dieu qui prend l'identité d'un mortel, qu'il est des doubles. Néanmoins, cet expédient ne se retourne jamais contre l'original. Il n'a pas pour but d'attaquer la personne dédoublée. Un peu comme si Mercure, dans l'Amphitryon de Plaute, prenait les traits des sosies non plus pour usurper son identité, mais pour les protéger, et s'ingéniant aussi pour éviter de les rencontrer. Toutefois, pour que cette conclusion prenne forme, il faut d'abord parcourir rapidement les exemples de l'Iliade. Le premier exemple qu'il faut considérer est constitué par un épisode du livre 5 de l'Iliade, celui où Apollon remplace un aîné blessé par un idolon pour les sauver de la fureur de Diomède. Il s'agit évidemment d'un double de défense. Cet épisode est absolument unique. Aucun autre héros en difficulté dans tous les poèmes homériques n'est sauvé grâce à cet expédient. Le second exemple qu'il nous faut considérer se rapporte à un autre épisode de l'Iliade, entre le livre 21 et le livre 22, où un mortel est de nouveau sauvé par intervention divine, grâce à une défense analogue. À ceci près, que cette fois, les dieux ne créent pas un idolon trompeur pour parvenir à ses fins, puisqu'il révèle lui-même l'apparence de l'agressé pour attirer l'agresseur. Il s'agit encore d'Apollon qui, pour soustraire Agénor à la fureur d'Achille, prend les traits du premier et entraîne les seconds loin du champ de bataille. Voyons donc ces deux épisodes et comparons-les. Voilà les premiers. Diomède sévit sur les champs de bataille, déchaîné contre les lignes troyennes. Pandare, l'archer, décoche une flèche de son art redoutable, mais inutilement. Diomède est seulement blessé. Pandare s'arme alors de sa lance. Toujours en vain, les fils d'Étidée semblent être protégés par les dieux. Sur ces, Diomède tue Pandare. Puis il se tourne vers Aîné, sur qui il lance un énorme roc, le blessant à la hanche. Le choc fracasse l'acétabule du héros et lui sectionne les deux tendons. Aîné s'effondre, une main posée à la terre, tandis qu'une sombre nuit l'enveloppe. Il eût certainement péri si Aphrodite, sa mère, n'avait assisté à la scène et pris la défense de son fils en le protégeant de son peuplos. Mais Diomède la blesse elle aussi à la main, et la déesse est contrainte de fuir sur l'Olympe. C'est alors qu'Apollon en personne vient protéger Aîné et repousser Diomède, qui n'hésite pas à l'assaillir à quatre reprises. Apollon les menace avec les mots suivants. C'est une citation de l'Iliade. Prends garde à toi, fils d'Étidée, arrière, et ne prétends pas égaler tes desseins aux dieux. Ce seront toujours des races distinctes que celles de dieux immortels et celles des humains qui marchent sur la terre. Diomède se retire épouvanté, tandis qu'Apollon emporte Énée et le met hors d'atteinte sur les rochers de Pergame, dans le temple qui lui est dédié, où Leto et Artémis prennent soin du héros. Mais Apollon, non content d'avoir éloigné Énée du champ de bataille, conçoit un autre stratagème. C'est le passage qui nous intéresse tout particulièrement. Cependant, Apollon, à l'art d'argent, fabrique un fantôme semblable à Énée, aux armes pareilles. Et autour de ces fantômes, les Troyens, comme les divins Achaïens, mutuellement déchirent autour de leur poitrine boucliers de cuir ronds et rondaches légères. Le mot pour fantôme est eidolon, c'est-à-dire un objet qui s'offre seulement à la vue, à la visibilité. Énée ne réparaîtra que plus tard, après qu'Apollon l'aura tiré de son riche sanctuaire et lui aura infusé une ardeur nouvelle. Les voyants s'en essoufflent, ses compagnons se réjouissent, mais la bataille en cours ne leur laisse pas le temps de les questionner. Comme nous le voyons, cet épisode homérique présente déjà toutes les caractéristiques qui reviendront dans l'histoire du fantôme animé créé par Héra pour mettre Hélène à l'abri de la séduction. Mais ce n'est pas le seul parallèle possible, car la littérature grecque et romaine abonde un double de défense qui opère comme celui d'Homère. À côté de l'idole d'Énée, nous pouvons placer celui de nuage à l'image d'Héra qui, si l'on en croit Pindare, fut créé par Zeus pour protéger la déesse des ardeurs d'Ixion. Ou cet autre idolon des nuages qui, dans les Éoïaï attribués à Hésiode, trompe Endymion et sauve une fois de plus Héra d'une tentative de séduction. Elle était beaucoup recherchée, Héra, dans la mythologie. Il y a encore l'idolon d'Iphigénie qui, toujours selon les Éoïaï, remplace les jeunes filles sur l'autel du sacrifice. Et il y a beaucoup de simulacra dans la tradition épique romaine et dans l'Énéide, dans la guerre punique de Sinus Italicus, etc. Ces nombreuses empreintes que les sceaux homériques ont laissées dans la tradition postérieure ont en quelque sorte continué à dédoubler les doubles d'Énée de l'Iliade. Passons au second épisode, semblable au précédent, dont nous voulons nous occuper. Nous sommes au livre 21 de l'Iliade, quand Apollon, encore lui, intervient cette fois pour sauver Agénor de la fureur d'Achille. Le Péléide alors se lance à son tour sur le divin Agénor, mais Apollon lui refuse de conquérir cette gloire. Il lui arrache l'homme et le lui dérobe derrière une épaisse vapeur. Puis, il le conduit à l'abri de la bataille. Il tend en même temps un piège au Péléide pour l'éloigner des siens. C'est le préservateur lui-même qui prend tous les traits, et le texte dit Panta et Oikos, qui prend tous les traits d'Agénor et se dresse devant Achille. Aussitôt, celui-ci se rue à sa poursuite. Longtemps, il est poursuit par la plaine fertile, puis il le fait tourner, longer les scamandres au tourbillon profond. Apollon se dérobe, mais en ne gardant qu'une faible avance. Perfidement, il berne Achille de l'espoir toujours nouveau que ses pieds vont enfin l'atteindre. Tout au début du livre suivant, le 22e, Apollon se fera finalement reconnaître par Achille. Phébos Apollon alors s'adresse au Péléide. « Pourquoi, fils de Pélée, me poursuivre ainsi de tes pieds rapides? Tu n'es qu'un mortel, je suis, moi, un dieu immortel. Tu n'as donc pas encore reconnu le dieu à moi que tu t'obstines en ta fureur. Vraiment, tu ne songes guère à te battre avec ces Troyens que tu avais mis en fuite. Ils ont rallié leur ville, tandis que toi, tu t'es garé ici. Non, tu ne me tueras pas. Je ne suis pas de ceux qui sont destinés à la mort. » Lors, Achille, aux pieds rapides, violemment s'irrite et dit, Tu m'as joué, préservateur, le plus exécrable de Dieu, en m'éloignant des murs pour me mener ici. Bien d'autres guerriers sans cela eussent mordu la poussière avant d'atteindre Ilion. Mais tu m'as voulu ravir une grande gloire en sauvant les Troyens, sans risque, puisque tu ne redoutes aucun châtiment à venir. Ah, je te châtierais bien, moi, si j'en avais les moyens. Si nous laissons de côté la question de l'identité dévoilée à la fin, ces deux épisodes de l'Iliade présentent de grandes similitudes. Dans les deux cas, en effet, la même divinité, c'est-à-dire Apollon, protège un guerrier troyen plus faible, aîné Agénor, de la fureur d'un guerrier grec plus fort, Diomède ou Achille. Le stratagème de secours mis en œuvre est identique. Les deux fois, Apollon éloigne les guerriers menacés du champ de bataille et lui substitue un double, parfaitement identique, qui induit son ennemi en erreur. Pourtant, entre ces deux épisodes si semblables au premier abord, il existe de différences si subtiles que substantielles. Essayons de les mettre en évidence. Pour y parvenir, nous voulons nous poser un ensemble de questions, ou plutôt les poser directement à Homère. Nous sommes en effet convaincus que les textes des poèmes se fondent sur une logique culturelle solidement organisée qui explique certains choix narratifs même lorsqu'ils paraissent casuels ou injustifiés. Il suffit simplement de retrouver cette logique. Il suffit de savoir que le monde d'Homère est foncièrement différent du nôtre et que par conséquent, il faut s'efforcer autant que possible de penser selon l'esprit du monde grec et non plus selon les nôtres. La première question que nous voulons poser à ces deux épisodes de l'Iliade regarde la technique de mystification mise en œuvre par Apollon. Dans le premier cas, le dieu construit un fantôme, un eidolon, du héros à protéger. Dans le second, en revanche, il devient lui-même le double du héros puisqu'il prend ses traits. Dans le cas d'Aîné, comme nous l'avons déjà signalé, il s'agit d'un procédé qui préfigure l'expédient qu'employera Héra pour protéger Hélène de la séduction. Par contre, quand Apollon emprunte l'identité de la personne à dédoubler, nous nous trouvons devant un schéma récurrent dans les poèmes homériques, car il arrive souvent que les poèmes narrent quand Dieu prend les traits d'un mortel pour amener un autre mortel à accomplir une certaine action. En prenant les traits d'Agénor pour leurrer Achille, Apollon n'agit pas différemment d'Athéna, qui, quelques vers plus loin dans le même livre, emprunte l'identité des déiphobes pour tromper Hector et les pousser à combattre Achille. Et c'est encore Athéna qui emprunte l'identité des phénix pour inciter Ménélas au combat. Mais pourquoi y a-t-il une telle disparité entre les deux techniques employées par Apollon? Pourquoi construit-il un eidolon les premières fois alors qu'il endosse une identité la deuxième? Pour comprendre cette différence, il est nécessaire de se remettre en mémoire les règles de visibilité, si je puis dire, auxquelles les relations entre les divinités et les mortels se conforment dans la culture homérique. Normalement, les dieux sont invisibles aux hommes. S'ils veulent se manifester, ils doivent prendre une forme humaine ou animale. Mais leur vraie présence, leur aspect authentique, reste un mystère que les mortels ne peuvent éclaircir. Et c'est à ten enseigne que les rares fois où, pour une raison quelconque, le voile d'invisibilité s'élève et quand Dieu se manifeste sous sa véritable apparence, son éclat effraie les mortels, au point qu'ils sont forcés de détourner le regard en cachant le visage sous une couverture, de sorte que finalement la vraie présence du Dieu échappe, une fois de plus, au regard humain. Et ce qui arrive, par exemple, à Anchise, quand Aphrodite lui dévoile sa beauté immortelle après la nuit d'amour. D'une façon ou de l'autre, la vraie, voire l'authentique présence des dieux reste donc invisible aux mortels. Il y a cependant une exception, justement représentée par Diomède dans l'épisode que nous avons examiné. En effet, Diomède a reçu d'Athéna les dons singuliers de voir les dieux, normalement invisibles aux hommes. Comment cela a-t-il été possible? Homère fournit une justification plutôt matérielle, pratique, à cette faculté exceptionnelle de Diomède. Elle vaut la peine d'être rapportée. Athéna, nous dit Homère, lui a ôté l'achlus des yeux, à savoir une sorte de brouillard ou de brume qui voile les regards des hommes et les empêche de jouir de la vue des dieux, l'achlus. Voilà le texte d'Homère dans le livre 5. C'est Athéna qui parle. J'écarte aussi de tes yeux, des yeux de Diomède, j'écarte aussi de tes yeux les brouillards, l'achlus, qui jusqu'ici les recouvrait. Tu sauras de la sorte distinguer un dieu d'un homme. Si quelque dieu de l'or te vient ici tâter, garde-toi de combattre en face les divinités immortelles, sauf une. Si la fille de Zeus, si Aphrodite, entre dans la bataille, elle frappera de ton bronze aigu. En conséquence, Diomède voit clairement Aphrodite quand elle protège son fils aîné. Comme nous l'avons déjà dit, il est en mesure de la blesser, de même que plus loin, il sera capable de reconnaître Arès combattant aux côtés d'Hector sous les traits d'Acamas. Mais surtout, par trois fois, il n'hésite pas à se ruer contre Apollon qui protège Aîné. Et le texte dit, sachant bien qu'Apollon lui-même étend son bras sur lui. Jusqu'à ce que lors d'un quatrième assaut, Apollon l'exhorte explicitement à ne pas se mesurer au dieu. Diomède donc voit les dieux, de sorte qu'il voit aussi les stratagèmes qu'ils mettent en œuvre pour protéger les mortels. Voilà pourquoi, dans le cas présent, Apollon ne pouvait prendre l'aspect d'Aîné pour les distraire, comme il le fera par la suite avec Agénor. S'il l'avait fait, Diomède s'en serait aperçu, il l'aurait vu, parce qu'il n'avait pas la cluse dans les yeux. Les dieux étaient donc contraints et forcés de recourir à une autre tactique, la tactique de l'Eidolon. Deuxième question. Quelles conséquences, tant sur le plan narratif que sur le plan culturel, découlent de ces deux techniques différentes, des dédoublements? Dans le cas des guerriers grecs et troyens qui livrent bataille autour du fantôme d'Aîné, l'accent semble surtout mis sur la vanité, l'inanité absolue de ces combats. Comme dit le texte, autour de ces fantômes, de cet Eidolon, les Troyens, comme les divins Achaïens, mutuellement déchirent autour de leur poitrine boucliers de cuir rond et randaches légères. Tant de violences déchaînées autour d'une vaine créature, un Eidolon. Une fois de plus, Homère a imprimé la marque de son sceau sur la tradition mythique littéraire postérieure. Il s'agit en effet d'un thème, l'inanité absolue du combat, qui sera clairement exprimée dans l'Hélène d'Euripide. Le poète athénien ira même jusqu'à mettre en œuvre toute une logique symbolique pour démontrer l'inanité incommensurable de la guerre déclenchée au nom de l'Eidolon d'Hélène. Faisons une brève parenthèse pour voir comment Euripide développe les discours qui mettent à nu l'absurdité d'une guerre meurtrière menée au nom d'un fantôme. Au début de la tragédie, il nous est raconté que l'Eidolon d'Hélène a été fabriqué par Héra avec un morceau de ciel, Uranos. Plus loin, dans les textes, Hélène déclarera que son double a été fait avec de l'aether, donc de l'air. Il s'agit d'un double fait d'air. Mais au vers 704 et suivant, la perspective change brusquement. Ménéla a finalement découvert que la vraie Hélène se trouve avec lui en Égypte et que l'autre, l'Hélène qu'il a récupérée à Troie après la conquête de la ville, n'était que son double. L'esclave, bouleversé par les événements, veut comprendre, citation, si cette femme était ou n'était pas le prix qu'on s'est disputé pendant les batailles de Troie. Parce que c'était un double, donc ça change. Hein? Et Ménéla répond, ce n'était pas elle. Les dieux nous ont trompés. Nous avions dans nos mains une image faite des nuages. Et le texte dit « Nefeles agalma ». Une image faite des nuages, cause de tant de douleurs. « Quoi dis-tu ? » réplique alors l'esclave. « C'est pour un nuage que nous avons tant souffert, rien que pour cela. » Voilà donc l'Eidolon d'Aether, les fantômes d'air, est devenu un agalma de Nefel, une image des nuages. La perspective a changé sur des plans à la fois. D'une part, l'Eidolon, ou le fantôme d'Hélène, a été remplacé par une image, un agalma, mais pas n'importe lequel. En grec, en effet, agalma ne signifie pas seulement image ou statue, mais d'une façon plus générale, la gloire ou l'honneur, qui peuvent être aussi représentés sous la forme d'une image ou d'une statue. D'autre part, cette nouvelle dénomination du fantôme d'Hélène implique une autre grande différence, puisque la matière qui compose les doubles n'est plus la même. En effet, l'air a été remplacé par les nuages. Pourquoi ce changement? Sur un plan symbolique, les nuages sont très différents de l'air. Ils ne se rapportent pas seulement à une matérialité pour le moins floue, mais aussi à l'inconsistance et à la vanité. Ils sont aussi les personnages qui tentaient de séduire Hera, enlaça un fantôme fait des nuages. Dans la seconde pythique, où cette histoire est brièvement décrite, Pindare dit textuellement qu'Hésion coucha avec un nuage, suivant un doux mensonge, homme sans discernement. Un fantôme nuager est un mensonge, et l'homme qui s'y laisse prendre sans discernement. En définissant le fantôme d'Hélène comme un être fait des nuages, Euripide souligne d'emblée toute l'inconsistance de la créature qui s'est disputée Paris et Ménélas. Ce qui émerge à présent avec force, c'est le thème de l'illusion. Ces changements brusques dans la substance de l'Eidolon les manifestent immédiatement. Selon Euripide, la plus grande et la plus célèbre des guerres de l'Antiquité fut déclenchée par une illusion. Pour les sang qu'ils versèrent, les souffrances qu'ils endurèrent, les Grecs reçurent un honneur, image, un agalma, un honneur, image au même temps, des nuages. Une gloire qui, sous la forme d'un double des nuages, ne valait rien. Mais revenons maintenant à Homère, après cette parenthèse euripidienne. Le poète de l'Iliade, avec la rapidité et la simplicité propre au style épique, avait déjà préfiguré tout cela dans l'épisode du combat qui se déroule autour de l'Eidolon d'Énée. Autour de ces fantômes, nous a dit, les Troyens comme les divins Achaïens mutuellement déchirent autour de leur poitrine boucliers de cuir rond et rondaches légères. Déchirure, poitrine, bouclier, rondage, tout un univers concret, le concret de la bataille, des armes, des corps blessés, autour d'un objet insaisissable qui s'offre uniquement au regard, l'Eidolon. Revenons maintenant sur le cas d'Achille abusé par Apollon sous les traits d'Agénor. Rien d'Aether ici, rien de Néphélé, de nuage, pour tromper les yeux des ennemis. Bien au contraire, c'est plutôt l'état de fascination auquel le dieu réduit Achille qui est mis en évidence. Pour décrire les tours joués à Achille, le texte dit « Apollon l'a leurré astucieusement ». Mais le verbe employé pour signifier l'action de leurrer, « felgein », est en réalité chez Homère celui qui indique l'acte de se rendre maître de la volonté de quelqu'un ou d'une personne tout entière, en opérant par enchantement, par magie, ou en exerçant un pouvoir surnaturel, quel qu'il soit. C'est le verbe, par exemple, employé pour nommer les pouvoirs qu'Hermès exerce au moyen de sa baguette, sur les yeux des mortels, pour les faire s'endormir ou se réveiller à son bon plaisir. Le verbe « felgein » désigne encore les pouvoirs que Circé exerce sur ses victimes quand elle leur administre des potions et parsème la nourriture des pharmaca, et ainsi de suite. Par conséquent, Achille est sous l'emprise du dieu qui, usant des forces surnaturelles, l'a ensorcelé et entraîné loin du champ de bataille. En revanche, comme nous l'avons dit plus haut, Apollon n'aurait pu faire gagner les yeux de Diomède, puisqu'ils ont été délivrés du brouillard d'Aclus qui empêche les mortels de distinguer les dieux d'entre les hommes. La seconde technique mise en œuvre par Apollon pour sauver un héros, s'approprier son identité pour éloigner l'ennemi qui le menace, entraîne une conséquence intéressante. L'apparition des dieux homériques aux yeux des mortels se joue sur les terrains de l'illusion. Quand une divinité se montre aux hommes sous les traits d'un mortel, il s'engage un processus bilatéral, en quelque sorte. Nous n'avons pas seulement un dieu qui prend l'identité d'une certaine personne, nous avons aussi les yeux ensorcelés de ceux qui croient voir son aspect illusoire. Voici maintenant une troisième question qui concerne plus précisément les cadenés sauvés par Apollon. Quel type de fantôme le dieu a-t-il créé pour doubler son protégé? Homère ne nous dit rien à ce sujet. Il reviendra aux auteurs postérieurs de spécifier que les idolâtres qui doublent les mortels sont faits d'un morceau de ciel, d'éther, ou bien à partir d'un nuage, etc. Il est aussi certain, comme nous l'avons vu, que dans le cas du double d'aîné, la matière employée est plutôt inconsistante, puisque cette créature est définie comme un idolon, un sujet de pure apparence. Il en va de même pour les fantômes des morts, les ombres ou les images réfléchies dans un miroir qui, en grec, sont indistinctement nommées eidola, au même titre. Cette inconsistance est encore attestée par les contrastes que nous avons déjà relevés entre la nature des eidolons du corps et la violence du combat qui l'entoure, ou un matériel bien solide, bouclier, de cuir, rondage et mis en pièces. Ce qui frappe cependant, c'est que pour décrire la création de l'idolon d'aîné, Homère emploie le verbe construire, théoho, le verbe dont il se sert généralement pour se rapporter à la fabrication des maisons, des lits, des navires, des tripodes, des objets en métal, ou bien pour la préparation de la nourriture. En somme, il s'agit d'un verbe qui désigne des opérations résolument matérielles et qui, comme tel, peut paraître tout à fait paradoxal pour indiquer la production de quelque chose d'aussi immatériel qu'un eidolon. Quand Euripide aura à décrire la réalisation de l'eidolon d'Hélène par Héra, il recourra à un verbe beaucoup plus léger, syntizemi, ayant mis ensemble, un mode de création qui s'adapte aussi aux matières aériennes et impalpables. La façon de s'exprimer adoptée par Homère, qui fait construire un double à Apollon, tout comme Héphaïstos construit un tripode ou un menuisier un lit, met en évidence un trait fondamental du double qu'il est intéressant de rencontrer dès ses origines, à savoir sa capacité de combiner les matériels et l'immatériel, les visibles et l'invisible. Autrement dit, il s'agit de construire l'inconsistant ou l'inexistant. Les fantômes qui doublent les mortels sont à la fois immatériels et solides, au point qu'ils trompent les hommes sur les vraies natures. De fait, ces vaines images peuvent être construites comme s'il s'agissait d'objets bien concrets. Encore une fois, les créations d'Homère ont eu la capacité de déterminer les inventions de la poésie postérieure, comme les sceaux marquent la cire. Revenons un instant sur les doubles de la belle Hélène dans la tragédie d'Euripide. Nous savons que Paris a vécu en compagnie de ce double aérien pendant bien 10 ans, sans jamais s'en rendre compte. Ménélas l'a eu après de lui pendant 7 ans, et lui non plus n'a jamais rien soupçonné. On nous dit même qu'après la prise de Troie, Ménélas avait, c'est le texte d'Euripide, avait amené Hélène en les traînant par les cheveux. Hélène, à savoir son eidolon. Voilà une action qui devrait être plutôt ardue hein, quand on a dans les mains un fantôme fait d'air. Évidemment, nous devons penser que l'imagination du poète, parce qu'il s'agit d'une logique fantastique, évidemment, que l'imagination du poète accordait à ce double une consistance et une authenticité absolue. Il s'agissait d'un fantôme programmé à la perfection. Du reste, vers la moitié de la pièce, l'eidolon d'Hélène est défini comme bleponta somata, un corps qui voit. Blepen, ça signifie voir. Une définition qui nous rappelle les statues animées construites par Dédale. C'est un corps Euripide qui nous dit que ces statues avaient deux yeux qui s'ouvraient, mais surtout qui voyaient, bleponta encore. Autrement dit, leurs yeux étaient munis d'un regard. Ce qui signifiait précisément que ces statues étaient très proches de la vie des créatures réelles. Le double aérien construit par Héra possédait donc toutes les caractéristiques de la solidité et de la vie. Maintenant, nous comprenons peut-être mieux ce qu'Homère entendait avec son eidolon theochestai, construire matériellement un fantôme. L'expression est très laconique, comme il arrive souvent dans la condensation de la diction épique. Laconique, mais aussi assez claire. Pour mettre en place le paradoxe d'une inexistence qui est la matérialité trompeuse d'un être vivant qui sache voir, agir, éventuellement aimer, il faut bien déployer tout un art, toute une technique. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du double. Arrêtons-nous un instant sur l'original. Voilà la quatrième question que nous voulons poser au texte de l'Iliade. Que devient l'original lorsqu'il est dédoublé? C'est une question légitime. Comme nous l'avons déjà souligné, il est fréquent dans les poèmes homériques qu'un dieu prenne les traits d'un mortel en vue d'un certain résultat. C'est une des façons de réaliser la visibilité de Dieu, en Homère, prendre l'identité de quelqu'un. Il serait trop long d'énumérer tous les cas. Citons seulement pour mémoire quelques exemples tirés de l'Iliade. Aphrodite rêvait l'aspect d'une vieille fileuse auprès d'Hélène. Athéna prend l'identité de Laodoc aux côtés de Pindare, etc. Pour être précis, il y a 20 cas des divinités qui s'approprient l'apparence d'un mortel dans l'Iliade et 14 dans l'Odyssée, donc 34. Comme nous le savons déjà, ces dieux qui prennent l'aspect des mortels peuvent parfois révéler leur identité divine ou, du moins, être reconnus par leurs interlocuteurs comme des divinités sous apparence humaine. En revanche, il arrive rarement que les poètes se préoccupent de raconter ce qu'il advient de l'original, tandis que le dieu agit sous ses traits. Voyons donc les rares cas où cela s'est produit. Prenons d'abord le cas d'Agénor, dédoublé par Apollon, que nous avons déjà longuement examiné. Il nous est dit que, tandis qu'Apollon Agénor entraîne Achille après lui, l'Agénor authentique, le vrai Agénor, est enveloppé de brumes et porté sain et sauf loin du champ de bataille. Nous disposons d'informations analogues dans des autres cas. Dans le second livre de l'Iliade, Iris prend l'identité de Polytès, le fils de Priam, pour communiquer à Priam et aux siens que les troupes achéennes s'approchent des murs. Le texte prend la peine de préciser que Polytès, le vrai Polytès, au même moment, est posté au sommet de la tombe du vieil Hésiète pour surveiller les mouvements des navires grecs. Il se passe une chose semblable dans l'Odyssée quand il est question du voyage que Télémaque est sur le point d'entreprendre. Cette fois, il nous est dit qu'Athéna, sous les traits de Mentor, s'est embarquée sur les vaisseaux avec les fils d'Odyssée. Athéna a donc quitté Ithaque sous les traits de Mentor. Plus loin, quand Antinous demande à Noémon des nouvelles sur les voyages de Télémaque, celui-ci raconte avoir vu s'embarquer l'élite de la jeunesse d'Ithaque guidée par Mentor. Puis il ajoute, par Mentor ou par un dieu qui lui rassemble en tout point, Et c'est là vraiment que je m'émerveille, parce que le divin mentor, je l'ai vu ici, hier, au point du jour, et pourtant il s'est embarqué sur le vaisseau pour Pylos. Donc nous savons que l'original mentor se trouve à Ithaque, tandis que son double, Athéna mentor, est sur les navires avec Télémaque. Dans cet épisode, toutefois, il y a une différence par rapport aux deux autres. Alors que dans les cas d'Apollon, Agénor et Iris Polites, personne ne s'aperçoit du dédoublement en cours, cette fois ici, quelqu'un remarque qu'il se passe quelque chose d'étrange, que les deux ne peuvent être un, comme dirait l'Édipe de Sophocle. Si Mentor est parti avec Télémaque, dit Noémon, il n'est pas possible qu'on les rencontre à Ithaque avant même que les navires ne soient revenus. Or, quelle est la réaction de Noémon? Celle à laquelle nous devons nous attendre dans la culture homérique, devant cette incohérence, pour ainsi dire, qui a de quoi surprendre. Les personnages formulent immédiatement l'hypothèse que sous l'apparence de Mentor, un dieu s'est sans doute embarqué avec Télémaque. Nous savons bien qu'il arrive fréquemment qu'un dieu prenne l'apparence d'un mortel dans la culture homérique. Pourquoi donc être troublé de s'apercevoir qu'une même personne se trouve à des endroits à la fois? L'explication veut tout naturellement. Il y a d'une part la personne en chair et en eau, et de l'autre un dieu qui lui rassemble en tout point, comme dit Noémon. Voilà une explication religieuse, mythique, de ce qui est inexplicable. Être ici et être là en même temps, être un et deux. Une explication qui ne sera plus à la disposition de Messier Goliadkine, de Dostoïevski, par exemple, ou des autres personnages dédoublés de la littérature romantique. Dans le XIXe siècle, il n'y aura plus de divinité prête à endosser l'identité de quelqu'un, comme l'a pensé Noémon d'Homère. À ce moment-là, au XIXe siècle, il faudra trouver des explications différentes pour étouffer les scandales cognitifs du double. Ou mieux, il faudra se résigner à abandonner le double, à son mystère. En revenant au texte d'Homère, ce qui frappe dans les trois cas où il s'y préoccupe de raconter ce qu'il advient de l'original pendant qu'Andier a pris son apparence, c'est que le double et son original se trouvent toujours dans des liens éloignés l'un de l'autre. L'Agénor authentique est sur les champs de bataille, tandis qu'Apollon Agénor entraîne Achille ensorcelé après lui. Polites est au sommet de la tombe des Iètes, tandis qu'Iris Polites se trouve à la cour de Priam. Enfin, Mentor est à Ithaque, pendant qu'Athéna Mentor navigue aux côtés de Télémaque. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité que l'original et son double puissent se rencontrer. Ces textes homériques nous permettent de faire une observation intéressante au point de vue de l'histoire du double et de sa perception. Mais avant, je voudrais citer un exemple qui vient de Virgile, hein, qui pourrait nous aider à comprendre mieux la situation. Parce qu'il en va de même pour Ascagne et Cupidon. Quand l'édier, Cupidon, prend les traits d'Ascagne pour mieux séduire Didon dans les premiers livres de l'Énéide. Dans cet épisode, Cupidon prend l'aspect d'Ascagne pour mieux séduire Didon. En effet, alors que Cupidon Ascagne se rend avec Énée à la cour de Didon, nous savons que le véritable Ascagne est endormi sur le mont Idalium, enveloppé dans l'ombre et les délicats parfums de marjolaine. La déesse Vénus y a veillé elle-même pour éviter qu'Ascagne, ce sont les mots du texte de Virgile, ne puisse avoir connaissance de la mystification et n'y fasse obstacle à s'interposant. Cette fois, la divinité se préoccupe explicitement d'éviter toute rencontre entre le double et l'original. Ascagne est même endormi dans la marjolaine. Pour écarter de la scène et rendre inoffensive un original fort embarrassant, Vénus use véritablement de ses dons surnaturels pour Cascagne perde directement conscience lors de son dédoublement. Donc revenons à l'observation que ce texte homérique nous invite à faire sur intéressante au point de vue de l'histoire du double et de sa perception. Bien que le poème abonde un épisode de dédoublement d'un mortel par une divinité, au total 34, comme nous l'avons vu, la rencontre entre un double et son original n'a jamais lieu. Ou bien, il n'est pas directement pris en considération du point de vue du narratif. On ne s'occupe pas de la sorte de l'original quand il y a un double divin aux alentours. Ou bien, lorsqu'il est question de l'original, du double divin, il est spécifié qu'il se trouve ailleurs, loin du lieu d'action de son double. Ce ne peut être le fruit du hasard. Apparemment, les poètes homériques ne voulaient pas affronter les problèmes d'une interaction possible entre le double et son original. Sur le plan narratif, il est rigoureusement établi qu'ils ne se rencontrent jamais. Pour reprendre un terme propre au langage des anthropologues, nous pourrions dire que dans les poèmes homériques, l'évitement est la règle entre le double et son original. Il y a une règle d'évitement entre les deux. Dans la plupart des cas, Homère ne fait aucune mention de ce qui arrive à l'original durant son dédoublement. Dans les rares cas contraires, il met une bonne distance entre le double et son original afin qu'il leur soit impossible de se rencontrer. Ces quelques réflexions nous amènent à la conclusion suivante. Il est évident que l'expérience du double telle que nous la concevons, la rencontre avec un autre soi-même, la confrontation directe entre l'original et son image parfaite, la dépossession du moi et la perte d'identité, n'existe pas dans la poésie homérique. Ce type de fantaisie n'intéressait pas le poète homérique. Il a choisi de ne pas la représenter. D'où la règle de l'évitement, comme nous l'avons définie, entre le double et l'original. Nous l'avons dit au début, les poèmes abondent en épisodes dans lesquels un dieu révèle l'aspect d'un humain, les dédouble en tout point. Et ce fait est considéré tout à fait normal dans les poèmes. Mais cette usurpation d'identité ne se retourne jamais contre l'original. À plus forte raison, ce dernier n'est-il en aucun cas dépossédé de lui-même. Contrairement aux situations auxquelles la lecture d'Hoffmann, de Poe, de Dostoïevski nous a accoutumés dans Homère, le double et son original évitent purement et simplement de se retrouver face à face. Et voilà la cinquième et dernière question que nous voulons poser non seulement à Homère, mais à toute la tradition du double ancien. Jusqu'à quand cette règle d'évitement, le double et son original qui ne se rencontrent jamais, semble avoir été respectée? Pour autant que nous le sachions, jusqu'à Plaute. Pour nous, l'amphitryon de l'auteur comique latin représente en effet les premiers textes qui affrontent les thèmes, en vérité angoissants, au-delà du comique, du double en tant que perte d'identité, en tant que dépossession du moi, puisque quelqu'un dit « tu n'es pas toi, c'est moi qui le suis ». Même dans l'Hélène d'Euripide, il n'y a pas de rencontre directe entre l'original et son double. Ils demeurent séparés. Hélène ignore ce que c'est que de se trouver face à une autre elle-même qui la prive de son identité. Au mieux, elle soupçonne, elle imagine, elle redoute que quelque chose de similaire soit arrivé. Mais le face-à-face double original que Plaute met en scène est absent dans la tragédie. Le caractère perturbant d'une telle expérience est reporté sur une troisième personne, Ménélas, lorsqu'il réalise qu'il ne connaît pas seulement une Hélène, mais deux, même s'il ne lui arrive jamais de les voir ensemble. Nous pouvons donc dire qu'à Van Plotte, l'expérience du double en tant que face-à-face avec un autre moi n'est pas représentée. L'essor de William Wilson, de M. Goliath King et de tant d'autres personnages romantiques est sans exemple dans l'Antiquité avant Amphitryon. Pouvons-nous affirmer pour autant que les Grecs n'ont pas connu les doubles tels que les présentent les Romains Plotes? Certainement pas. Étant donné que l'Amphitryon tire vraisemblablement son origine d'un texte grec, nous disposons d'une documentation lacunaire qui ne nous permet pas de lancer des affirmations du genre Geistesgeschichtlicht à la Bruno Snell, comme le monde antique ne connut pas la rencontre avec les doubles avant Plotte. Toutefois, nous pouvons affirmer avec certitude que dans les poèmes homériques, un corpus original, fini, bien structuré dans sa logique culturelle, la rencontre entre les doubles et son original reste non seulement inconnue, mais elle semble sciemment évitée. J'ai l'autre, c'est là une question qui semble ne s'être jamais glissée à l'horizon du monde littéraire et culturel du poète homérique. Je vous remercie.